Pluriel, le podcast du bien-être sexuel.
C'est bon ? Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ouais.
Allez-y, rentrez.
Merci.
Quatrième épisode de Pluriel avec Laura Berlingot, gynécologue obstétricienne. Oui, on reçoit une médecin aujourd'hui. C'est du sérieux, mais ça nous paraissait très important d'entendre la parole d'une gynécologue pour parler du bien-être sexuel. Gynécologue obstétricienne donc à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. Et ça va me permettre de lui poser des questions que je n'ose pas forcément poser quand je suis en face du médecin, qu'on oublie un peu quand on passe la porte de la salle de consultation ou du cabinet, et surtout qu'on n'ose pas forcément poser. Donc attention, Laura Berlingot n'est pas représentative de toutes les voix des gynécologues de France. Bonjour Laura Berlingot.
Bonjour.
Merci d'être venue jusqu'à moi, d'avoir accepté mon invitation. Est-ce qu'on peut se tutoyer ?
Avec plaisir.
Bon alors c'est parti. Pour vous présenter, pour te présenter en quelques mots, tu as 34 ans, tu vis à Paris, donc tu es gynécologue obstétricienne à la Pitié-Salpêtrière, hôpital de Paris. On peut aussi t'écouter puisque tu as participé à plusieurs podcasts autour de la sexualité, qui m'a filé Clamédia, et puis aussi Coucou le cul, podcast de mademoiselle.com qui est super, je vous conseille d'aller les écouter puisqu'il y a plusieurs épisodes où tu réponds aux auditeurs et aux auditrices sur des questions autour de la sexualité. Et puis depuis le début de l'année, on peut aussi te lire puisque tu as écrit ton premier essai qui est paru aux éditions Les Arènes et qui s'appelle « Une sexualité à soi ». Qu'est-ce que ça veut dire avoir une sexualité à soi ? Première question, pas les plus simples.
C'est ça. Donc, je vais devoir résumer mon livre en 3 minutes 30. L'idée de la sexualité à soi, c'est d'essayer de penser sa sexualité. En fait, c'est d'aller un petit peu à contre-courant des manuels de développement personnel qui peuvent être un peu en mode, bon, ben voilà, pour jouir, il faut se toucher comme si, il faut faire ça, il faut... Voilà. Pourquoi pas ? J'ai rien du tout contre ces manuels et je pense que ça peut aider pas mal de personnes. Il s'avère que moi, ça n'a pas été ma démarche. La démarche, c'est plus de dire la sexualité, déjà, c'est beaucoup de choses. La sexualité, c'est pas que les rapports sexuels. C'est aussi tous nos rapports amoureux, amicaux, nos rapports sociaux. C'est aussi les violences, c'est aussi la parentalité, c'est aussi le couple. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses autour de la sexualité. Et toutes ces choses-là, la sexualité, ce n'est pas quelque chose qui évolue en soi et pour soi. Notre sexualité évolue dans une société. Et dans une société donc, qui est traversée de normes. La norme dominante, du moins en Europe, en Occident, en 2020-21, c'est la norme hétérosexuelle reproductive. Voilà, c'est quelque chose qui reste très ancré. Ce n'est pas une critique en soi de cette norme de l'hétérosexualité comme pratique ou de... Voilà, mais c'est-à-dire que toutes nos relations à la sexualité sont imprégnées de cette norme. Et donc le but de l'essai, c'est d'essayer de dérouler un petit peu des thématiques autour de ça et autour de la prise de conscience que ce qu'on fait, nos désirs, nos représentations, nos manières d'agir sont imprégnées par des choses extérieures et de trouver, donc la sexualité à soi, c'est de trouver un petit peu sa voie là-dedans. De dire, bon ben voilà, il y a des choses extérieures à nous qu'on ne maîtrise pas forcément, mais qu'est-ce que nous, on peut déjà se rendre compte dans nos relations aux autres, dans quel système on est pris, dans quel rapport de domination aussi parfois on est pris, et essayer d'en sortir si on peut, ou du moins de les mettre assez à plat pour arriver à trouver un espace dans lequel on puisse penser donc sa propre sexualité, toujours dans la relation avec l'autre. Il y a vraiment toujours cette idée d'aller-retour, ça peut être une sexualité à soi, mais en rapport avec les autres, et parce que le monde change, notre propre sexualité peut bouger aussi. Une sorte d'aller-retour entre l'intime et le collectif.
Alors justement, moi qui me pose pas mal de questions sur la sexualité en ce moment, c'est vrai que ça fait un peu peur parce que, à force de se poser des questions, est-ce que le naturel ne s'en va pas finalement de notre sexualité, de ce qu'on a appris en pratiquant depuis qu'on a commencé ?
Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Bah, tu demandes, est-ce que le naturel ne s'en va pas de ce qu'on a appris? Donc, ça pose la question de la naturalité de la chose. Et de, est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis? Moi, j'ai une vision, après ça, je pense que voilà, c'est une vision politique. Hein, je ne considère pas ni la sexualité ni autre chose, d'ailleurs, comme quelque chose d'inné. C'est quelque chose qu'on apprend, comme tu dis, et qu'on apprend dès le plus jeune âge. C'est pour ça que moi, je suis une grande défenseuse de l'éducation à la sexualité dès le plus jeune âge. Parce que très, très vite, en fait, on se retrouve dans des schémas qui sont parfois stéréotypés, notamment autour des stéréotypes de genre, dans des schémas sexistes, dans des schémas aussi, bon, on peut aller plus loin, racistes, validistes, etc. Et du coup, ce qu'on considère comme naturel, peut-être à l'âge de 20 ou 30 ans, finalement, c'est pas si naturel que ça. On n'est pas né avec ça. On a grandi avec, par contre, et on s'est constitué avec, donc toute l'enfance, l'adolescence, etc. Et donc, je ne pense pas que ce soit un danger de déconstruire ces acquis, en fait, des choses qu'on peut considérer comme naturelles, de les considérer un petit peu moins comme naturelles, parce que je pense que c'est très dangereux, particulièrement dans le domaine de la sexualité, le naturel. Parce que le naturel, ça veut dire quoi? Si la sexualité est naturelle, ça renvoie beaucoup aux pulsions, notamment. Et c'est souvent comme ça qu'on va défendre le viol, par exemple. C'est-à-dire, c'est les pulsions des hommes. Les pauvres, ils ont... Ben voilà, elle est passée devant avec une jupe courte, il n'a pas pu s'en empêcher. Elle était si belle, la pulsion était si grande et c'est naturel, il avait envie d'elle. Ben non, en fait. Enfin, on peut aussi dire qu'il n'y a absolument rien de naturel dans le fait que c'est un rapport de prédation, en fait, hein, c'est de la domination, et que quelqu'un qui ne peut pas se réfréner devant une jupe courte, et qui, la plupart du temps, n'est pas une jupe courte, hein, d'ailleurs, parce qu'on sait que dans les violences sexuelles, peu importe la tenue de la victime, mais enfin, c'est pas pulsionnel, en fait, c'est pas naturel, c'est pas inné, et qu'on n'est pas des animaux. En fait, c'est pas parce qu'on est des mammifères qu'on doit se comporter comme des bonobos, et donc du coup on vit en société, et on a tendance à trouver ça plutôt bien de vivre en société pour plein de choses, à trouver qu'il y a plein de qu'on a quand même inventé pas mal de choses, on a détruit pas mal de choses aussi, mais enfin on a inventé des choses, et d'aller plutôt vers une augmentation de ça plutôt qu'un retour à l'animal, ça me paraît plutôt positif en termes de sexualité.
Alors, sans parler des extrêmes, effectivement, autour de ce qu'on met derrière le mot naturel, mais quand on a des rapports en couple ou même tout seul, c'est vrai, quand on finit par se poser des questions, il y a quelque chose qui se passe, en fait. C'est pas... Moi, j'ai eu une sexualité avant et après avoir réfléchi à ma sexualité, en fait. Et je sais pas, aujourd'hui, me dire est-ce qu'elle était mieux avant ou elle est mieux aujourd'hui.
Alors, ça, du coup, je pense que c'est un chemin et que, comme tout chemin... Il est semé d'embûches. Et que c'est assez fréquent, du moins. Comme quand on rentre dans un, je sais pas, dans une psychothérapie ou dans des choses où on va aller, on veut faire bouger des choses. Alors, faut savoir que, enfin, voilà, j'oblige personne à lire ce livre. Hein. Donc, si on le lit et si on se renseigne sur la thématique de la sexualité, c'est qu'il y a une appétence à l'origine. C'est là, mais on a envie d'aller chercher quelque chose. Si on est très bien comme on est, très bien. Enfin, n'allons pas plus loin. Mais du coup, si on commence à chercher, évidemment, enfin, c'est comme quand on s'intéresse à l'écologie, ça peut créer aussi beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. C'est un nom d'ailleurs pour l'écologie, hein, l'éco-anxiété. Donc, vous pouvez inventer la sexuelle-anxiété. Très probablement. Enfin, en fait, ça, c'est pas très étonnant. Ça crée des choses, ça remue des choses. Ça fait ressortir des choses, ça fait ressortir parfois des choses violentes aussi, hein, des choses de l'enfance, des choses qu'on avait un peu mis sous silence, qu'on avait recouvert du tapis. Et c'est sûr que ça peut se faire avec un peu de fracas. Après, est-ce que c'est... Enfin, moi, c'est encore une fois, c'est une manière de voir le monde et de voir sa vie, de voir sa propre vie. Moi, comme je vois ça plutôt comme un chemin, et où je pense que c'est assez terrible, hein, de mettre des choses sous le tapis, et qu'il vaut mieux les sortir et essayer de faire le point, de les ranger un petit peu et d'avancer avec ça. Et ça ne veut pas dire qu'on les efface, juste qu'elles nous accompagnent. Il y a beaucoup de choses qui nous accompagnent et qui ne sont pas forcément faciles. Par contre, je pense que là-dedans, si on ne veut pas tomber, du moins, dans une anxiété de performance, dans une injonction à devoir jouir, par exemple, ça, je pense que c'est à devoir avoir une bonne sexualité, donc à normer encore ce que doit être la bonne sexualité. Voilà, je pense que c'est l'écueil. Et c'est pas, enfin, comme souvent les écueils, c'est pas en faisant comme si ça n'existait pas qu'on les évite. C'est en se disant, en les regardant, en se disant, ok, c'est pas parce que je m'intéresse à la sexualité que dans 10 jours, je dois être le meilleur clou de la Terre. et déconstruire aussi cette idée du meilleur clou de la terre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Et, ou alors même aller plus loin. C'est pas parce que je m'intéresse que dans un an, je serai absolument au clair sur tout et dans des relations égalitaires et saines et heureuses. Ben, en fait, non. C'est un chemin et ça ne dépend pas que de nous. En plus, il y a beaucoup de choses extérieures. Ça dépend des personnes que l'on rencontre, de comment on se sent à ce moment-là de notre vie. Bref, ça dépend de tellement de choses qu'il faut faire attention. Je ne vais pas donner une injonction en disant faut pas rentrer dans l'injonction. Ça c'est complètement paradoxal. Mais en tout cas, faire attention, être assez quand même, être assez tolérant avec soi-même aussi, hein. Se accepter les allers-retours, les circonvolutions, le fait que c'est pas une autoroute vers le plaisir, c'est pas du tout l'idée.
Comment on prépare une consultation pour aller chez le médecin? C'est vrai que souvent, on a plein de questions et puis quand on arrive là-bas, on n'a ou pas le temps de les poser ou on n'a pas forcément l'accueil qu'on attendait et finalement, on oublie ou on n'ose pas poser certaines questions ou parler de certains sujets.
Alors, pour ce qui est des questions qu'on oublie, alors pour m'être retrouvée moi-même patiente, je pense qu'il faut les noter. Ça a l'air tout bête comme ça, mais effectivement, je ne sais pas, c'est toujours comme ça. Ça marche à tous les coups, hein, et vraiment moi-même, hein, je sais pas, on me dit, ah oui, je voulais poser un doigt, j'ai oublié, bon, bah, bref. Donc du coup, non, les questions qu'on veut vraiment poser, moi je dis souvent aux femmes enceintes, qu'on revoit d'un mois à l'autre, en disant, si vous avez des questions, écrivez-les, si en plus vous allez penser, donc, vous allez penser deux semaines avant, puis après vous allez oublier, puis après vous allez me voir, puis après une semaine après vous allez dire, mince, j'ai oublié de demander ça, et du coup après c'est le mois d'après, bon bref. Donc voilà, ça c'est un petit truc très pratique, hein, mais voilà, après pour la question, on sait, hein, je vais absolument pas faire l'autruche et dire que ça n'existe pas, il y a des violences gynécologiques et obstétricales qui existent, il y a des médecins qui voient des patientes toutes les 10 minutes, 15 minutes, ça laisse pas beaucoup le temps pour discuter. Il y a des professionnels qui sont pas à l'aise avec certains sujets, qui vont botter en touche, qui vont pas. Et ça, malheureusement, j'ai pas de. Je suis désolée, hein, j'ai pas de réponse à ça, si ce n'est si on a des questions, de ne pas se décourager. Si on a besoin de pas dire que bah, c'est comme ça et tant pis, cette personne-là ne m'a pas répondu et ça veut dire que probablement il n'y a pas de réponse. Non, si elle n'a pas répondu, c'est aussi peut-être parce qu'elle ne savait pas, parce que ça l'a mis mal à l'aise, parce que ça l'a poussé dans ses retranchements et qu'elle s'est dit, ah, mince, en fait, ça, j'en ai aucune idée et qu'elle n'a pas voulu aller voir ailleurs et aller chercher plus loin et s'adresser à un collègue. Donc voilà, aller reconsulter, aller voir ailleurs. Essayer d'avoir du bouche à oreille. Il y a des sites, hein, il y a Gynenco qui est un site de soignants féministes. Après, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui est dessus et je pense qu'il y a des très bons soignants et soignantes qui ne sont pas sur ce site. En tout cas, ne pas rester seul avec ces problèmes et essayer aussi, et ça, ce n'est pas facile, mais c'est vrai que ça peut venir avec les années, avec le temps, avec la confiance en soi, arriver aussi à dire aux professionnels de santé qu'on est en face de soi, parfois, dire bah, « En fait, non, là, ça ne me va pas. Quoi. J'ai des questions à vous poser, vous ne pouvez pas m'expédier comme ça. Mais je sais que ce n'est pas facile parce que ça reste une figure d'autorité. Voilà, il ne faut pas non plus, si on ne se sent pas, on s'en va et on va voir ailleurs. Enfin, » voilà.
C'est vrai que c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, des violences obstétricales pour les femmes qui accouchent, des problèmes de consultation avec certains gynécologues. Moi-même, ça m'est arrivé. Bah, d'ailleurs, ma dernière expérience, j'avais un problème de stérilet qui me faisait mal. On m'a traité de chochotte et donc je suis repartie avec mon stérilet. Enfin, je l'ai gardé. Donc, ça serait, on en parle beaucoup. On a de la chance de t'avoir aujourd'hui, gynécologue, même si tu n'es pas la voix de tous les gynécologues, comme on disait. Mais c'est important aussi d'en parler. J'ai l'impression que ça fait du bien aux patients et patientes de parler de ça.
Oui, je pense que c'est important et je pense que c'est en fait ça a été primordial. Toute la vague, notamment il y a eu le hashtag Paye ton utérus en 2014, je crois. J'ai un doute sur la date, mais je crois que c'est en 2014, sur Twitter, avec des milliers de témoignages du jour au lendemain. Moi, j'étais interne, parce que je commençais l'internat en 2011. J'étais interne et je voyais défiler ces témoignages. Et je me disais, mais vraiment, c'est terrible, il faut qu'on se remette en question. Et comme j'étais très jeune, je pense que c'est plus facile de se remettre en question que quand on est jeune. La société change, la société évolue, cette libération de la parole et cette écoute aussi autour des violences gynécologiques et obstétricales, je pense qu'il ne faut pas croire que les médecins y ont été imperméables. Il y a eu toute une vague de médecins, et notamment de médecins installés depuis longtemps, qui ont été hyper critiques de ça parce qu'ils l'ont pris personnellement. Je pense que c'est pas comme ça qu'il fallait le prendre, mais le fait est qu'ils l'ont pris personnellement comme si c'était des mauvaises personnes en soi, quoi. C'était pas ça la critique, c'était la critique d'un système notamment paternaliste et patriarcal, et que ces médecins-là, ils existent toujours. Mais j'ai l'impression que là, on est presque 10 ans après, pas tout à fait, mais presque, que c'est quand même des discours qui infusent de plus en plus dans les espaces institutionnels, dans les espaces médicaux, et que aussi les nouvelles générations qui arrivent, où ces générations-là sont plus à l'écoute. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit basculement quand même sur ma génération, les 35-40 ans, et que aussi les enseignements changent là-dessus.
Et comment ça se passe aujourd'hui dans une salle de consultation, en gynécologie? Comment ça se passe en 2021?
J'aime beaucoup les consultations pour juste de l'information et de la prévention. En fait, c'est pas, faut pas s'imaginer qu'à chaque fois, enfin nous en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, de faire des consultations vraiment de santé sexuelle au sens large, c'est-à-dire que on vient pas forcément pour une prescription de pilule ou un toucher vaginal ou un frottis. Et on s'en va. Non, c'est-à-dire, en fait, il peut y avoir des examens médicaux, il peut y avoir des examens complémentaires, etc. Mais ce n'est pas du tout les choses obligatoires. On peut aussi venir voir un médecin ou une sage-femme pour discuter, pour avoir des informations, c'est de la prévention pure. Hein, et c'est très bien, ces consultations-là. Et parfois, si les personnes viennent pour un frottis, par exemple, d'ouvrir cette porte et dire, si vous voulez venir me voir et parler d'autre chose, et s'il y a des choses qui vous gênent ou si vous avez des questions, etc., la porte est ouverte. Et ça, je pense que c'est important.
Qu'est-ce que tu aimerais voir changer?
Il y a beaucoup de moments de la vie d'une femme, notamment, qui sont pathologisés. La grossesse, déjà, c'est très médicalisé. La ménopause, en soi, la ménopause, c'est un terme médical, c'est une carence en hormones. Une femme jeune qui vient consulter pour une contraception, c'est encore ressortir avec soit des hormones, soit un dispositif, quelque chose de très médical, où on est sûr que ça va marcher. Moi, ce que j'aimerais voir évoluer, c'est vraiment qu'on ait une vision un petit peu plus globale de la santé sexuelle. Qu'on dise que la santé sexuelle, ça renvoie, donc la santé sexuelle et reproductive, que tout ça, ça renvoie donc à notre sexualité, au fait de pouvoir faire des enfants ou pas, que c'est pas quelque chose qui est strictement médical, qu'on insère un petit peu plus de sciences humaines et de sciences sociales dans notre cursus, dans notre manière de voir les enjeux dont on est au contact tous les jours. Et effectivement, qu'on fasse plus de consultations axées vraiment sur la santé sexuelle au sens large et sur la prévention, et qu'on soit des personnes ressources pour de l'information. On est en train d'essayer de monter un diplôme universitaire à Sorbonne Université, justement, pour ça, pour parler de santé sexuelle pour tous et toutes, qu'il soit un peu inclusif et avec un éclairage des sciences humaines et sociales. Je pense que c'est important. Je le dis en exclu parce que ça devrait se faire là. On vient d'avoir une réponse positive. Donc je crois que je peux le dire. Et aussi, donc ça c'est pareil, c'est aussi si on essaie de mettre en place à la pitié d'intégrer les violences, notamment les violences de genre, les violences sexuelles et sexistes à nos prises en charge et notre offre de soins, quoi.
Donc ce qu'on retient quand même, c'est qu'on peut venir voir un gynécologue pour de la prévention, pas forcément à chaque fois parce qu'on a besoin de prendre la pilule, parce qu'on a des douleurs, etc. En fait, on peut venir vous voir juste comme ça pour discuter déjà.
Ouais. Alors, et je vais préciser, gynécologue ou sage-femme ou médecin généraliste formé en gynécologie. Et il faut le savoir, qu'encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne savent pas que les sages-femmes peuvent faire ça. Et non seulement elles sont formées, mais en plus elles ont une formation où souvent elles sont même plus à l'écoute, plus empathiques, elles prennent plus le temps. Elles n'ont pas la même formation que les médecins. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir des sages-femmes pour votre suivi gynécologique. Et de la même manière, les médecins généralistes, c'est pareil, de par leur formation, ils ont aussi beaucoup plus l'habitude de voir des choses dans leur ensemble, dans leur globalité. Ils sont formés à ça, en fait. Et donc, n'hésitez pas aussi à aller voir des médecins généralistes formés en gynécologie pour du suivi standard, entre guillemets. C'est-à-dire que s'il y a, pour des questions, pour de la prévention, pour les frottis, pour les machins, c'est des personnes tout à fait, des personnes ressources pour ça, qui peuvent adresser si besoin.
Dernière question du podcast pluriel. Est-ce que tu as un conseil, un objet, un mantra, une phrase à nous faire partager pour prendre soin de soi?
Voilà, j'en parlais au début, en fait, je me suis un peu grillée moi-même, mais non, pour moi, c'est ce qui, est, moi, ce qui me fait me prendre soin de moi, c'est vraiment toujours renvoyer toutes mes actions à la notion de désir. Et c'est ça qui m'aide aussi souvent quand, je suis fatiguée, que j'ai plein de choses à faire, que je me dis « Ah, mais là, quand j'ai pas envie et que je suis un peu down, etc. » Je me dis « Mais pourquoi est-ce que je fais ça au fond ? Qu'est-ce qui m'anime ?» Et si ce qui m'anime, c'est le désir, c'est ça le moteur, en fait. Que c'est pas une idée de moi-même, que c'est pas un truc lointain. Non, que le moteur, que ce qui me fait avancer, c'est mon désir. Je me dis « Je peux pas me tromper. »
Bon, merci beaucoup, Laura Berlingot. Ton livre, donc, aux éditions Les Arènes, « Une sexualité à soi ». Merci beaucoup.
Merci à toi.
C'était Pluriel, le podcast produit par Gapian, la première plateforme française du bien-être sexuel.